Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Je voudrais me faire le serviteur de la parole de Dieu. Puisque nous sommes rassemblés, non pour entendre un message, nous sommes rassemblés pour lire ensemble la parole. Lorsque j'ai accepté la responsabilité des études bibliques de ces deux journées, et quand j'en ai connu le thème, celui centré sur l'encouragement des serviteurs de Dieu, j'ai aussitôt eu à cœur la deuxième épître de Paul à Timothée. Et la première chose qui a retenu mon attention a été cette relation d'amitié profonde et réciproque de Paul et Timothée. Une amitié qui s'exprime par l'encouragement mutuel à persévérer dans la foi et dans l'accomplissement du ministère, quelles que soient les circonstances. Je ne prendrai pas la peine, ni le temps, ni le risque d'une étude approfondie de l'introduction aux épîtres pastorales qui pose bien des problèmes. Je vous renvoie pour cela aux ouvrages spécialisés et aux commentaires. Mais je me limiterai ce matin, pour une bonne compréhension de notre étude, aux quelques remarques suivantes. Une première, concernant l'emprisonnement de Paul, dont il est question dans notre épître. Il ne faut pas l'identifier à celle qui nous est rapportée à la fin du livre des Actes. Car le régime qu'il connaissait alors était assez souple et lui laissait la possibilité de prêcher librement, il suffit pour cela de se référer à Actes 28, verset 30, telles ne sont pas les conditions de la détention rapportées par la deuxième épître à Timothée. Onésiphore a eu de la peine à le trouver. D'autre part, Paul dit qu'il est lié comme un malfaiteur. Il n'est donc pas déraisonnable de penser qu'après sa première captivité, rapportée par le livre des Actes, Paul fut libéré et put reprendre son activité apostolique. Arrêté une seconde fois, probablement vers 67, il aurait connu une détention plus rigoureuse qui se serait terminée par le martyre. Deuxième remarque, les hérésies combattues par les pastorales ne doivent pas être trop rapidement qualifiées de gnosticisme, ce qui oblige souvent à dater tardivement. Troisième remarque, concernant l'organisation des églises, telle qu'elle est reflétée par les pastorales, cette organisation est plus proche de celle du premier siècle que du second, en ce sens qu'il n'y a pas encore de distinction entre les épiscopes et les anciens. Dernière remarque, tout en admettant que le style des pastorales est bien différent des autres épîtres de Paul, il y a des différences de vocabulaire, notamment de nombreux apax, c'est-à-dire des expressions qui ne se trouvent que dans cette deuxième épître ou dans ces épîtres pastorales, ces différences peuvent s'expliquer d'une part par les circonstances particulières. On y parle de grand-mère, d'estomac, de parchemin, c'est bien contingent, ou bien peuvent s'expliquer aussi par la différence des sujets traités, par l'âge avancé de Paul, par ce qu'il vit au terme de sa vie. Je considère donc cette deuxième épître à Timothée comme authentiquement paulinienne dans son esprit, sinon dans sa lettre, et par conséquent comme le testament spirituel de Paul. Et c'est bien ainsi que je vous invite à écouter cette parole. Donc aujourd'hui, ce matin, le texte étudié mettra en évidence cette relation affectueuse de Paul et Timothée, ainsi que l'exhortation à transmettre courageusement l'évangile d'une génération à l'autre en acceptant les souffrances liées à ce ministère. Et puis, demain matin, toujours en ayant à l'esprit ce climat d'amitié, ce sera davantage le contenu de cette communication qui sera souligné, en restant attaché fidèlement, comme Paul nous y exhorte, à l'écriture et à la prédication de la parole. Encore avant de lire le texte, que nous lirons par étapes, quelques indications concernant l'itinéraire de Timothée. Comme vous le savez, Paul a conduit Timothée à la foi lors de son premier voyage missionnaire, à Lystre plus exactement. À son second voyage, l'apôtre s'attache Timothée comme disciple et compagnon, et dès ce moment, il est presque toujours aux côtés de Paul, sauf de rares intervalles, lui servant de secrétaire dans la rédaction de la plupart de ses épîtres. À peine ils s'en séparent de temps en temps pour des missions spéciales, absences courtes et rapides auxquelles l'un et l'autre ne consentaient qu'avec peine. Timothée a donc de la sorte travaillé avec l'apôtre Paul à la fondation des principales églises, Philippe, Thessalonique, Bérée, Corinthe, Éphèse, et il accompagne l'apôtre Paul dans son troisième voyage. Il est durant son séjour de 3 ans à Éphèse, Timothée ne s'éloigne de la métropole d'Asie que pour une mission en Macédoine, puis à Corinthe, une mission délicate puisqu'il devait essayer d'y rétablir l'ordre, ce qui lui a été difficile étant donné son caractère et son tempérament. Il suivra Paul dans sa troisième visite à Corinthe et de là l'accompagnera à Jérusalem. Dès ce moment, les actes se taisent sur le reste de la carrière de Timothée, mais les épîtres pastorales suppléent en partie à ce brusque silence. On peut affirmer, sans doute possible, que Timothée a suivi Paul à Jérusalem, puis à Césarée, et qu'il s'est embarqué avec lui vers l'Italie et l'a assisté dans sa prison. Son nom apparaît dans les épîtres dites de la captivité. Après la première captivité de Paul, il a suivi son maître à Éphèse et y demeura quelque temps, avec la charge de gouverner l'église de ce lieu. Il y restera jusqu'à ce que Paul, à la veille de sa condamnation, et nous sommes ici dans les circonstances de la deuxième épître de Paul, jusqu'à ce que Paul l'appelât et en toute hâte pour qu'il assistât à ses derniers moments. Pour l'épître aux Hébreux, par l'épître aux Hébreux, on apprend que Timothée lui-même fut emprisonné puis relâché. Le reste de son existence et de son activité semble s'être passé à Éphèse et, selon la tradition, il aurait été martyrisé dans cette ville. Voilà qui nous permet de mieux situer le texte que nous allons lire ensemble maintenant. J'ai demandé à Mathias Radloff, qui nous accompagne dans ce centre évangélique et qui est nouveau professeur à Emmaüs, de bien vouloir faire la lecture que nous ferons par étapes des versets 1 à 5 du chapitre 1er.
Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure et ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi.
Il y a tout d'abord une différence intéressante entre la première et la deuxième épître quant à la manière de Paul de s'adresser à Timothée. Dans la première épître, il dit, il l'appelle « mon véritable enfant ». Ici, il le désigne par cette expression affectueuse « mon enfant bien-aimé ». Paul emploie la formule « enfant bien-aimé » pour désigner les chrétiens qu'il a évangélisés. Mais il n'appelle aucun de ses collaborateurs de cette manière. Et cette nuance de tendresse évoque l'amour d'un père pour son fils unique. Lagrange précise, lui, que bien-aimé et unique revient au même. C'est le fils unique de l'apôtre Paul. Et dans Philippiens 2, verset 22, Paul écrit à propos de Timothée, « Vous savez qu'il a fait ses preuves et que, comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. » Chaque fois que Paul pense à Timothée, c'est l'image d'une amitié indéfectible qui se présente à lui. Et il en rend grâce au Seigneur. Il ne cesse de mentionner Timothée dans ses prières. Et dans la solitude de sa prison, Paul souffrant de l'abandon de nombre de ses amis et songeant aussi à sa mort prochaine, voudrait goûter une suprême consolation. Ce qu'il souhaite, c'est revoir Timothée. Il le suppliera par deux fois à la fin de sa lettre de se hâter, de venir le rejoindre. Et le verbe « hâter » qu'il emploie pour exprimer son vœu a une nuance d'ardeur et d'intensité particulière. Il y tient vraiment de tout son être. Paul n'oublie pas l'affection que son disciple lui a témoignée tout au long de sa vie, et plus spécialement en une circonstance particulièrement douloureuse. « Ce jour-là, nous écrit Paul, Timothée a versé des larmes dont le souvenir emplit d'émotion le cœur de Paul. » Mais on ignore malheureusement à quel événement exact Paul fait ici allusion. Certains songent à la scène rapportée en Actes 20, 37, suite au discours d'adieu de Paul, où les dix tous, avec de grandes larmes, lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassait. Mais il semble que cet épisode remonte trop en arrière et que Timothée, à ce moment-là, n'était encore qu'un assistant parmi beaucoup d'autres. Et il est donc préférable de supposer que Paul fait ici allusion à une séparation plus récente, peut-être celle qui eut lieu lorsqu'il fut arrêté et emmené à Rome pour la seconde fois. Revoir Timothée serait pour Paul être rempli de joie. Ce thème de la plénitude est un thème régulier qu'on retrouve dans les épîtres de Paul. Eh bien, pour lui, ce serait vivre une plénitude de joie que d'avoir l'occasion de revoir Timothée dans les circonstances qui sont les siennes. Et remarquez cette opposition qu'il y a chez Paul entre la tristesse d'une part et la joie, qui sont des expressions tout à fait paulinienne de la sensibilité qui est la sienne. Timothée réjouit le cœur de Paul parce qu'il est resté fidèlement attaché au Seigneur, à cause de sa foi sincère et pure, une foi sans hypocrisie. Et cette foi sincère, eh bien, Timothée l'a reçue aussi, elle s'enracine dans son milieu familial. Paul mentionne ici la grand-mère et la mère de son disciple. Eunice, sa mère était juive, devenue croyante. Et puis, sa mère, elle aussi, était dans la foi. Et on ignore à quel moment ces deux femmes se sont converties, mais ce qui est aussi étonnant et remarquable ici, c'est une certaine absence du père. Il n'est mentionné qu'en passant pour dire qu'il était grec, c'est-à-dire païen, et on ne dit rien de plus que lui, de lui. Peut-être que cela explique aussi ces relations très étroites entre Timothée et l'apôtre Paul. Je propose la lecture des versets suivants. Dans cette section, versets 6 à 16, l'auteur envisage plutôt les exigences qui s'imposent à Timothée s'il veut témoigner fidèlement de l'Évangile. Paul sait que la vocation du chrétien est de combattre. Et Timothée, en raison de sa jeunesse, pourrait être tenté de se décourager. Et Paul va employer tous les moyens possibles pour l'encourager. Et il fera référence à la consécration de Timothée. Il fera référence à l'élection qui est en Dieu, à l'appel que Dieu a adressé, à l'exemple même de Paul, à la conduite d'Onésiphore. Et finalement, il mentionnera un cantique qui exprime l'espérance chrétienne. Tout est mis en œuvre pour encourager Timothée. Nous lisons les versets 6 à 16.
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse.
Merci. Donc, pour encourager Timothée, l'apôtre Paul commence par lui rappeler les circonstances de sa consécration. Dans la première épître à Timothée, Paul conseillait à son disciple de faire preuve d'énergie afin que personne ne méprise sa jeunesse. Et il exhortait à ne pas négliger le don qu'il avait reçu par l'imposition des mains des anciens. Eh bien ici, de la même manière et dans le même but, Paul lui demande de raviver le don spirituel qui l'a voué au ministère. Il est cependant intéressant à noter qu'ici Paul n'exhorte pas Timothée de façon négative, mais positive en lui disant « ravive le don spirituel ». Les dons spirituels du Saint-Esprit n'opèrent pas d'une manière magique et indépendamment du sujet qui les reçoit. C'est une remarque que fait le commentateur catholique Spic. Sans cesse et de façon continue, le verbe ici est à l'infinitif présent, le serviteur de Dieu doit raviver le charisme qu'il a reçu, ranimer la flamme de l'Esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous le savons, naturellement, Timothée est quelqu'un de facilement impressionnable, qui se laisse intimider, et il doit réagir contre cette tendance naturelle, cette crainte qu'il a d'être écrasé par une entreprise, par ce sentiment d'impuissance face à un obstacle. Ce n'est pas cet esprit-là qui l'anime, c'est un esprit de puissance, de force, c'est le mot dynamis qui est employé, qui vise justement l'esprit, l'activité de l'esprit dans l'homme. La puissance est une caractéristique des temps nouveaux, comme vous le savez. Jésus-Christ, en quittant ce monde, a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance. » Et la proclamation de l'Évangile n'est pas seulement une œuvre de prédication, mais elle est un déploiement de puissance, une démonstration d'esprit et de puissance. Et le livre des Actes est justement l'histoire extraordinaire de cette assurance dont faisaient preuve les apôtres face au danger. Rien ne pouvait les arrêter, parce qu'ils étaient animés de cet esprit de force et d'autorité. Un esprit d'amour. Quand l'Esprit de Dieu est donné, l'apôtre Paul nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et cet amour, lorsqu'il est parfait, donne justement ces sentiments de liberté. L'amour parfait bannit la crainte. Et finalement, il lui dit, c'est un esprit de sagesse, de maîtrise de soi. Et cette idée-là est une idée qui revient régulièrement dans les pastorales. C'est une qualité de modération, de pondération. D'autres diraient de sobre bon sens. Et à la différence des moralistes, Paul ne considère pas la maîtrise de soi comme le résultat des efforts humains, mais comme, tout comme la force, comme l'amour, elle est un don de Dieu, une opération de l'esprit en l'homme. Voilà quelle est la force qui anime et anime Timothée. Et soutenu de cette manière-là, alors il n'a pas à rougir du témoignage qu'il doit rendre à Jésus-Christ. Même s'il est vrai que la prédication de la croix est un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs, la croix reste la suprême sagesse. Et l'apôtre est prêt, lui, à témoigner du Christ au prix des pires souffrances et des menaces les plus graves. Timothée est donc encouragé à prendre sa part de souffrance. La force de Dieu est là, et elle est justement là lorsque l'homme éprouve sa faiblesse. Deuxième point qu'il souligne pour l'encourager, c'est rappeler la puissance de salut qui est en Dieu. Il est difficile ici de savoir, dans ces versets 9 et 10, si Paul reproduit un texte préexistant comme une profession de foi, ou une formule catéchétique, ou un hymne liturgique, ou s'il écrit de son propre chef. Ce n'est pas l'essentiel pour nous. Ce qui est intéressant ici, c'est plutôt de remarquer la mention qui est faite de l'appel. L'appel au salut, cet appel qui fait de tous les chrétiens des appelés, justement, des élus. En rappelant que l'appel au salut est une grâce librement accordée par Dieu, Paul veut donner confiance à Timothée. Je crois qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Quand l'homme compte sur lui-même, il a de quoi être découragé. Quand il ne compte que sur Dieu, la crainte n'a plus de place. Et cette grâce, cet appel, remonte dès avant la création. Dieu a choisi et prédestiné en Christ ceux qui doivent hériter du salut. Pour Paul, Paul montre ici que le Seigneur ne s'est pas contenté d'apparaître au milieu des hommes. Il est venu accomplir l'œuvre essentielle de salut. Paul mentionne ici l'incorruptibilité à laquelle sont appelés les chrétiens. Et par ce mot, il désigne la gloire finale du croyant. Voilà qui doit motiver Timothée et l'encourager dans son ministère. Autre point qu'il souligne, c'est l'exemple de Paul lui-même. Il parle de lui et il le fait une fois de plus pour encourager Timothée. Et remarquez qu'il dit que pour cet évangile, il a été établi. Lui, il souligne le « moi ». Si vous regardez dans le texte grec, il y a un « ego » qui est mis en avant pour dire « Paul, en quelque sorte, met en avant ce fait que lui, par la grâce de Dieu, a été choisi. Il y a là une dimension d'émerveillement, d'insistance. C'est par la seule miséricorde de Dieu que Paul a reçu une mission si importante. Et rien dans sa conduite antérieure ne peut l'expliquer. C'est à cause de la mission au service de l'Évangile que Paul connaît l'épreuve. Mais il dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile parce qu'il sait en qui il a cru. Je sais en qui j'ai cru. Et « j'ai cru » est au parfait ici. Il exprime un état permanent et présent, le résultat d'un acte passé dont les effets se prolongent dans le présent. Paul signale que cette foi, ce n'est pas l'adhésion intellectuelle à un credo, mais c'est la remise de soi, l'abandon de soi à une personne à qui l'on peut se fier totalement, car elle ne décevra jamais. Voilà ce qu'il a expérimenté. Je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Garder mon dépôt, c'est une expression importante ici, mais qui a été discutée. On le rencontre à trois fois, ce mot, dépôt, dans ses épîtres pastorales, dans la première et dans la deuxième. Si vous regardez plus près, verset 12 et verset 14 de notre texte, le mot dépôt désigne un bien, par exemple une somme d'argent que l'on confie à quelqu'un pour qu'il en assure la garde et en temps voulu la rende au propriétaire. À la confiance de celui qui dépose cet argent correspond la confiance, la fidélité du dépositaire. Donc il y a deux façons de comprendre cette expression « garder le dépôt ». D'une part, on pourrait comprendre la manière suivante, le déposant est Paul et le dépositaire est Dieu. Ce qui veut donc dire que Paul a remis sa cause entre les mains de Dieu et il a confiance qu'au jour du jugement, Dieu le justifiera et lui remettra la couronne de justice préparée pour lui. Voilà une manière de comprendre. Mais beaucoup d'interprètes rejettent cette manière d'interpréter ou de commenter cette expression à la suite des pères grecs. Ils insistent sur le fait que dans les deux autres cas, lorsque cette expression est employée, il s'agit incontestablement de garder intacte la doctrine évangélique. Il semble que requis qu'il nous faut comprendre dans les versets 12 et 14 l'expression dans le même sens, et qu'il faudrait dire « Paul croit que le dépôt de l'évangile qui lui a été confié sera transmis grâce à Dieu jusqu'à la fin des temps ». Seulement, je fais tout de même cette remarque, dans le verset 12, il est question de « mon dépôt » et dans le verset 14, « le dépôt ». Et probablement qu'on peut quand même retenir le sens premier pour dire que Paul a confiance, que Dieu jusqu'à la fin le gardera et lui fera part de la couronne de justice. Si Timothée, au milieu de l'épreuve, doit méditer l'exemple de Paul en matière de persévérance et de confiance, il doit aussi, comme il l'est souligné ici, prendre pour modèle de son enseignement les saines paroles qu'il a entendues de lui. Le modèle des saines paroles, c'est ainsi que on lit dans la version second révisée. Le modèle, ce qui désigne non pas un prototype qu'il faudrait reproduire, mais plutôt une espèce d'esquisse, un schéma. En sculpture, il s'agirait d'une ébauche. En architecture, ce serait le plan général. En littérature, le canevas. Ce qui veut donc dire que Timothée reçoit de Paul une doctrine dont les points essentiels sont fixés, il n'y a pas de doute, mais qu'il ne doit pas abandonner, bien sûr, mais auquel un développement peut et doit être fait. Donc il a reçu l'essentiel qu'il faudra transmettre et qu'il faudra aussi développer. La fidélité à l'évangile de Jésus-Christ, remarquons-le, ne peut être garantie que par l'Esprit. C'est grâce à l'Esprit que Timothée pourra garder le bon dépôt, ce dépôt qui lui a été confié et qu'il doit transmettre d'une génération à l'autre. Autre exemple employé par l'apôtre Paul pour encourager Timothée, c'est celui d'Onésiphore, versets 15 à 18. Mais avant de citer cet exemple positif d'Onésiphore, Paul, par contraste, évoque l'abandon de nombre de ses amis. Il écrit « Tous ceux d'Asie m'ont abandonné ». Qui sont ces gens d'Asie? Il se peut que ce soit des chrétiens habitant la province romaine d'Asie mineure qui auraient refusé leur assistance à Paul, peut-être au moment de son arrestation, mais il est plus probable qu'il s'agisse de chrétiens originaires d'Asie, naturellement, mais résidant à Rome. Ils auraient préféré se désolidariser et refuser de témoigner pour Paul lors de son procès. Et on comprend mieux dans ce cas les précisions que l'auteur donne à Timothée. De toute façon, l'attitude de ces gens ne doit pas être assimilée à l'apostasie. Ce n'est pas l'abandon de la foi, mais c'est plutôt l'abandon de Paul. Trahison de son affection, honte de l'état de prisonnier dans lequel se trouvait Paul. Et la défection de Phygèle et d'Hermogène a été très douloureuse pour Paul, encore qu'il se garde de les juger. On ne trouve aucune mention de ces deux personnages dans le Nouveau Testament. Mais Paul a été profondément affecté par cet abandon. Au contraire, il cite Onésiphore comme quelqu'un qu'il a puissamment encouragé. D'ailleurs, le nom Onésiphore signifie « celui qui secourt, qui rend service ». Onésiphore a apporté le réconfort de sa présence et de son affection à l'apôtre Paul. Non seulement il n'a pas rougi de lui, il n'a pas eu honte des chaînes de Paul, mais arrivé à Rome, il a dû le rechercher fiévreusement jusqu'à ce qu'il trouve. Et ce dernier détail permet effectivement de penser que Paul était non plus dans une semi-liberté, mais au fond d'un cachot à Rome. La visite d'Onésiphore a été pour Paul un véritable rafraîchissement, une consolation, mais une consolation qui a justement ce sens de rafraîchir, de rafraîchissement pour un homme épuisé, rétablissement de quelqu'un qui était en mauvaise condition physique, un réconfort moral apporté à une personne dans la peine. Voilà le sens de cette visite et la portée de cette visite d'Onésiphore pour Paul. Il a été véritablement pour lui un encouragement et un rafraîchissement. Paul n'a pas encore épuisé tous les arguments capables d'encourager Timothée dans sa mission. Il veut encore lui rappeler que les souffrances du temps présent ne sont qu'une étape. Une étape à travers laquelle Dieu prépare les croyants pour le jour du salut qui est dans le Christ, avec la gloire éternelle. Et c'est dans ce sens que Paul écrit les versets 1 à 10 du chapitre 2. Je vous propose de suivre la lecture.
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle.
Une fois de plus, Paul interpelle Timothée d'une façon affectueuse, « Toi donc, mon enfant !» Et on a l'impression qu'il est d'autant plus affectueux que ce qu'il va partager a plutôt le caractère de l'austérité. Il l'appelle à se fortifier. Il a reçu cet esprit de force et d'autre part, il doit se fortifier sans cesse. Sans cesse, en allant puiser à la source même qu'est Jésus-Christ, car la même puissance qui est à l'œuvre en Christ, c'est celle qui agit en nous, les croyants, et qui nous équipe en vue du combat. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Timothée ne doit donc pas rougir de l'Évangile, en avoir honte, et il doit respecter le contenu de cet Évangile, en le transmettant sans l'altérer d'aucune manière. Et on voit ici que la première fidélité qui lui est demandée, c'est une fidélité doctrinale, une fidélité qui consiste en une mission à accomplir, celle de transmettre l'Évangile d'une génération à l'autre. Il est, lui, un de ses chaînons dans une longue suite de témoins. Et même si l'on y prend garde, dans ces versets, l'apôtre Paul a ici à l'esprit quatre générations, ou du moins l'évoque. Paul a reçu l'Évangile, une révélation du Seigneur Jésus-Christ, et l'a transmis à Timothée, première génération. Paul, puis Timothée. Timothée qui lui-même l'a transmis et devait le transmettre à des hommes qui soient également capables de le transmettre à d'autres. Donc vous avez Paul, Timothée, à qui Paul doit transmettre ce message, et ces gens doivent être capables, à leur tour, de le transmettre à d'autres. Il y a là vraiment comme une course de relais. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à de telles courses. Le moment du passage du témoin est un moment particulièrement délicat. Et je crois qu'il en est de même de l'Évangile. Et c'est pourquoi Paul insiste sur l'importance de cette communication et encourage Timothée à en payer le prix, à accepter la souffrance qui va avec cette communication de l'Évangile. Il doit, comme un soldat, être au service du Christ. Et pour illustrer cette exhortation, Paul propose trois paraboles. Il a parlé du soldat, il va donc évoquer l'image de la vie militaire, mais à côté de cela, à côté du soldat, il va aussi utiliser la parabole de l'athlète, la parabole du cultivateur. Chacune de ces trois images sert d'une manière particulière à mettre en évidence justement ce prix à payer. Le don total de soi pour le soldat, la soumission de l'athlète à la discipline et aux lois du sport, et puis l'application du cultivateur à son rude travail. Le soldat, d'abord. Le mot soldat ne se lit nulle part dans les écrits de Paul, sinon ici, mais il fait fréquemment allusion à cette image. Il faut dire qu'il a connu les soldats romains de près, il a eu l'occasion de méditer là-dessus, et c'est vrai que ce n'est pas une image que nous aurions choisie pour parler du chrétien. C'est une image qui, beaucoup, est un peu austère, repoussante, pour les Suisses qui doivent faire non seulement un service, une école de recrue, mais des cours de répétition. Cela évoque cette image du soldat qui part avec son paquetage au dos. Il doit réduire au minimum tout ce qui peut l'encombrer. Il doit renoncer à des choses tout à fait légitimes pour être disponible, pour accomplir le service qui lui est confié. Il doit donc renoncer à tout ce qui pourrait faire obstacle à sa mission, pour plaire à celui qui l'enroulait. C'est l'image du soldat. Puis, il y a celle de l'athlète, une image plus moderne, celle-là. Je pense qu'il nous est plus facile de comparer la vie du chrétien à un sportif. Eh bien, l'athlète ne peut prétendre à la couronne qu'à condition d'avoir lutté selon les règles. C'est cela l'image, ce que cette image veut souligner. Il faut rappeler que les compétitions sportives dans le monde gréco-romain étaient soumises à des réglementations rigoureuses qui visaient aussi bien la préparation que le déroulement des épreuves. Le règlement des Jeux olympiques d'alors exigeait que chaque athlète jura par serment qu'il avait suivi un entraînement régulier pendant 10 mois. Tout cela pour assurer un certain niveau aux Jeux olympiques. Et en outre, la moindre infraction aux règles du combat entraînait la disqualification immédiate. Donc se dérober aux règles du disciple, notamment au renoncement à soi et à porter la croix, c'est ne pas se soumettre aux règles. Et c'est courir le risque d'être disqualifié. Et puis ensuite, il y a l'image du cultivateur. Il ne faut pas non plus l'imaginer dans le temps moderne où le laboureur est dans sa cabine insonorisée ou sonorisée grâce à un casque parce qu'il écoute la musique, travaillant parfois la nuit. Non, ici, c'est l'homme du terrain. Et le cultivateur est là pour illustrer la peine, le travail pénible, ce qu'il y a de dur, de difficile à accomplir dans le travail. Il faut que le cultivateur soit le premier à prendre les fruits de la récolte. Ou bien on pourrait aussi dire qu'il faut d'abord que le cultivateur souffre cette peine du travail avant d'avoir part à la récolte. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que après ces trois paraboles, l'apôtre Paul se garde de faire un long commentaire. Il livre en quelque sorte Timothée à lui-même, ces paraboles ne sont pas expliquées. Paul a confiance que Dieu donnera à Timothée l'intelligence nécessaire. Et à ce sujet, au sujet du verset 7, John Stott écrit, et je trouve la remarque intéressante, il y a ici combinaison de la réflexion humaine, comprend ce que tu dis, et de l'illumination divine, le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. » Et il ajoute, pour une bonne compréhension de l'Écriture, il faut un juste équilibre entre la réflexion et le secours de l'esprit et la prière. Cet équilibre entre ces deux dimensions est essentiel. Après ces trois paraboles, Paul, encore une fois, cite l'exemple de Jésus-Christ. Et l'exemple de Jésus doit attester à Timothée que les souffrances, la mort au besoin, conduisent à la vraie vie. Rappelle-toi Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Cette réalité de la résurrection doit l'aider à souffrir, parce que celui qu'il sert a vaincu la mort et qu'il est maintenant ressuscité. Il est vivant. Et c'est bien cet état vivant actuel du Christ qui est souligné ici. Puis il y a encore une fois l'exemple de l'apôtre Paul dans les versets 9 à 10. Paul considère sa captivité comme la conséquence de la proclamation de l'Évangile. C'est d'ailleurs ce qu'il écrit aussi dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 13. « Il est devenu notoire dans le prétoire tout entier et partout ailleurs que c'est pour le Christ que je suis dans les chaînes. » Bien que poursuivi pour sa foi, Paul partage la dure condition des prisonniers de droit commun. Le mot « malfaiteur » est très fort. Il signifie ici des voleurs, des traîtres, des meurtriers. C'est au nombre de ces gens-là que Paul se trouve à cause de son attachement au Christ. Et de même qu'il affirmait dans l'Épître aux Philippiens que sa détention avait plutôt contribué au progrès de l'Évangile, de même ici, il déclare que rien ne peut arrêter la parole de Dieu, qu'elle n'est pas enchaînée. Si lui l'est, ça ne l'empêche pas, dans la prison même, de rendre témoignage du Christ. Et vous savez comment l'apôtre Paul a saisi toutes ces occasions dans lesquelles il s'est trouvé devant des tribunaux pour témoigner du Christ. Ce n'est pas par résignation, mais c'est bien par amour pour les élus. Il a cette espérance que son ministère portera des fruits parce que Dieu a élu les hommes. Pour terminer, nous allons nous arrêter à un dernier passage. Il s'agit probablement là d'un hymne baptismal. Certains ont pensé peut-être à un hymne d'exhortation aux martyrs ou une confession de foi. D'ailleurs, la formule qu'il introduit, il dit « elle est sûre, cette parole », montre bien qu'on est là dans une nouvelle étape. Et ce n'est pas rare chez Paul qu'il fasse usage de tel ou tel texte, de telle ou telle parole qui circule dans l'Église. Alors nous lisons maintenant ces versets 11 à 13.
Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
Vous le comprenez bien, le début de cet hymne est une allusion au baptême et non pas tant au martyr. C'est à l'enseignement de Romains 6 que Paul fait ici référence, à coup sûr. La mort avec le Christ, dans les lettres de Paul, ce n'est pas le martyr subi à cause de Jésus, mais c'est la mort au péché. La mort au vieil homme, réalisée une fois pour toutes dans le baptême, mais que le chrétien doit constamment actualiser. La vie chrétienne est un incessant passage de la mort à la vie, de la tribulation à la gloire. Si cette mort a été radicale au moment du baptême, d'autre part, le croyant doit s'appliquer à mourir chaque jour davantage. Ressuscité, il doit toujours plus vivre la vie nouvelle. Et c'est le fidèle qui souffre avec le Christ, qui aura part à la gloire. On pourrait peut-être mettre le texte en cachant pour le moment une partie, les notes supplémentaires, si tu peux les cacher. Donc le verset 12b, c'est vrai, si vous pouvez lire au rétroprojecteur, et si nous le renierons, il nous reniera aussi. Ce verset 12b peut surprendre par son caractère brusquement sévère. Certains chrétiens ont fait naufrage dans la foi, se sont écartés de la vérité. Les derniers temps seront des temps difficiles qui verront la défaillance de bien des croyants séduits par des esprits trompeurs. Malheur donc à qui reniera le Christ. Au lieu de régner avec lui, il sera condamné. Il ne suffit pas d'avoir un jour accédé à la foi et d'avoir reçu le baptême pour se croire à l'abri de toute faiblesse. Et le verset 13 est aussi une sévère mise en garde. Il souligne bien que si nous sommes infidèles, le Christ demeure fidèle, c'est-à-dire inflexible dans sa justice, qui récompense les bons et punit les renégats. Il est vrai que cette sévérité étonne, et on comprend que certains commentateurs ont cru devoir comprendre différemment ce texte. Je vous cite un premier commentateur du nom de Pierre de P. Dornier. Cette façon d'interpréter le verset 13 se heurte à une difficulté capitale. Elle donne au mot « fidèle », « pistos », un sens qu'il n'a pas habituellement dans la Bible et qui, en tout cas, est totalement absent du Nouveau Testament, dit-il. À part deux textes de l'Ancien Testament, comme Exode 34, Deutéronome 7, la fidélité de Dieu, je continue la citation, n'est pas la disposition qui lui fait récompenser les bons et punir les méchants, suivant les exigences de la justice, cette justice distributive de Dieu. Elle est permanence de sa volonté de sauver les hommes malgré les péchés et les reniements. La fidélité de l'homme n'atteint pas la fidélité de Dieu. Ainsi, le sens du original du verset 13a est certainement le suivant, c'est comme cela qu'il le comprend, alors même que le chrétien viendrait à manquer la fidélité, à ne pas tenir ferme dans la ligne de son baptême, la fidélité du Christ, témoin fidèle, demeurerait intacte. Dieu ne peut oublier ses promesses. Voyez l'interprétation qu'il donne. Et elle est partagée par Spick qui dit ceci, « La fidélité de l'homme envers Dieu n'est pas la mesure de la fidélité de Dieu envers l'homme. » Jusque-là, on peut le suivre. « Le rythme de l'hymne exigerait, dit-il, si nous sommes infidèles, lui même sera infidèle. » Or, c'est pas ce que le texte dit. On peut donc gloser, écrit-il, « il nous demeure fidèle. » Ainsi, l'amour du Sauveur brise la logique de la construction et emporte une stricte justice qui exigerait une rigoureuse réciprocité. Voilà une remise en discussion de cette note sévère de cet hymne. Et justement, pour essayer d'expliquer les choses, on a fait certaines suggestions. On a proposé, par exemple, que le verset 12b serait une insertion de Paul qui infléchirait le sens du verset 13b. Car il ne peut se renier lui-même. Dieu, j'ai pas le texte sous mes yeux, il manque la fin, là. Dieu demeure fidèle, je crois que... Pardon, je me rappelle plus de la fin, excusez-moi. Simplement, vous comprenez bien, c'est une façon de tourner le texte dans le sens qui plaît aux commentateurs, parce qu'on n'aime pas cette note négative. Et il faut bien l'admettre, le texte qu'on a sous les yeux, c'est celui qui est là. Et on ne peut pas accepter simplement cette manière de discuter. Il me semble plus juste de suivre ici John Stott, qui fait d'abord remarquer, et ça vous pouvez le voir sur le rétroprojecteur, qu'il y a quatre phrases qui commencent par « si », chaque fois avec des parallèles. Et dans ces quatre, vous avez deux premières phrases positives. « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. » Puis ensuite, vous avez deux phrases négatives. « Si nous ne renions, lui aussi nous renia. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Ce qui veut donc bien dire qu'on ne peut pas, compte tenu de ce parallélisme, interpréter cette dernière parole autrement comme signifiant que la fidélité de Dieu est est cette solidité, ce qui nous donne de l'assurance, mais c'est une fidélité à la fois à ses promesses et à ses menaces. Dieu tient parole. Et John Stott ajoute, à coup sûr, s'il ne nous reniait pas en cas d'infidélité de notre part, il se renierait lui-même. Dieu ne peut pas mentir. Et nous devons prendre au sérieux sa parole. Mais je rappelle tout de même que si Paul nous rapporte ce cantique, cet hymne baptismal, c'est bien pour encourager Timothée. Il y a là d'abord une note d'encouragement qui souligne bien la fidélité de Dieu. Mais c'est en même temps un stimulant pour la foi de Timothée. Il est exhorté à persévérer. Dieu tient parole. Dieu tient à la fois ses promesses et ses avertissements. Et il s'agit de persévérer dans la foi. Mais rappelons-nous bien que s'il y a possibilité de persévérer par la foi, tout en soulignant notre responsabilité, il faut mettre en évidence la fidélité de Dieu, qui, lui, nous rend capables de persévérer. Et j'aimerais citer cette parole pour conclure ce partage avec vous ce matin dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 23 à 24, lorsque Paul fait ce vœu et prononce cette bénédiction, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. » On retrouve ce mot de fidélité et c'est lui qui le fera. À la fois, Dieu, au travers de cette parole, nous avertit, nous encourage à persévérer et à nous rappeler l'importance de cette persévérance coûte que coûte. Puis à la fois, nous savons que si nous pouvons persévérer, c'est bien parce qu'il est fidèle et parce qu'il nous garde et parce qu'il nous accompagne. Je souhaite de tout cœur que ce partage ce matin, qui était au fil du texte, vous encourage, car si ce texte nous est rapporté, ce n'est pas simplement pour nous rappeler comment, dans le passé, Paul a encouragé Timothée dans son ministère, mais il nous encourage, nous aussi, à la fois par l'amitié que nous pouvons vivre les uns avec les autres, j'en parlerai demain en conclusion, mais aussi par le rappel des délivrances de Dieu, par le rappel de ceux qui ont persévéré et par qui ce message nous a été transmis. Nous pouvons avoir confiance que ce dépôt qui nous a été transmis et que nous devons communiquer aux autres, Dieu le conservera pour les générations à venir. Mais il nous appartient de nous mobiliser, de le faire avec joie, avec zèle, quel que soit le prix à payer, même s'il faut ressembler à un soldat, même s'il faut ressembler à un athlète avec toute sa discipline, son autodiscipline, même s'il faut souffrir comme un ouvrier qui peine, nous devons le faire parce que le Seigneur nous promet la couronne de gloire pour ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Amen.